بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. Donc le sujet du cours, c'est l'explication de certains noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cours, je vais essayer de le faire le plus simple possible, de sorte à ce qu'il puisse même être écouté par quelqu'un qui commence par exemple à pratiquer la religion, ou même quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'islam et qui veut se renseigner sur l'islam. Donc Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran: Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru baynahunna lita'lamu anna Allah 'ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in 'ilma. Donc ce verset du Coran nous dit: Allah est celui qui a créé sept cieux et de même que sept terres. Wa min al-ardi mithlahunna, c'est-à-dire et des terres au même nombre. L'ordre descend entre celles-ci, c'est-à-dire entre les cieux jusqu'à la terre, afin que vous sachiez qu'Allah est capable de toute chose et qu'Allah encercle tout par sa science. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de ce verset ? Allah Azza wa Jal nous dit qu'il envoie et qu'il fait descendre la révélation du ciel vers la terre pour que nous connaissions le fait qu'il est Qadir, c'est-à-dire qu'il est capable, qu'il a la puissance et la capacité sur toute chose, et également qu'il encercle tout par sa science. Donc on comprend de ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les êtres humains en partie pour qu'ils cherchent à le connaître. Et l'autre verset du Coran nous dit: Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé sa création pour qu'ils l'adorent, et cette adoration passe et est basée par la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette connaissance se fait en premier lieu par ses noms et ses qualités, par ces noms qu'il nous a révélés dans sa parole qui est le Coran, et par ces noms que nous a transmis son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc la connaissance des noms d'Allah, c'est connaître les qualités d'Allah, car les noms d'Allah qui sont multiples sont des noms et sont à la fois des caractéristiques, des descriptifs, des qualités d'Allah azza wa jal. Ce ne sont pas des noms dénués de sens. Donc connaître Allah et croire en lui se fait par la connaissance de ses noms. Et plus la connaissance d'Allah Azza wa Jal sera large par ses noms, et plus l'adoration sera concrétisée et la foi en Allah subhanahu wa ta'ala sera concrète. Un autre verset nous dit: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Certes, à Allah sont les noms les plus beaux, alors invoquez-le par ses noms. فَادْعُوهُ بِهَا, on peut le traduire de deux façons. Invoquez-le par ses noms, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici de nous diriger vers lui dans nos du'as, donc dans nos prières, dans nos demandes, dans nos invocations, par ses noms, c'est-à-dire en s'adressant à lui par ses noms qu'il nous a révélés. Et également, on peut le traduire par « alors adorez-le par ses noms », car le mot « du'a » peut avoir le sens de la prière et l'invocation, et peut avoir le sens de l'adoration de façon générale, donc du culte. Donc on peut comprendre du verset « adorez-le par ses noms », c'est-à-dire « adorez-le en fonction de ce que ses noms signifient ». S'il est celui qui est qualifié de la rahma, c'est-à-dire de la miséricorde, alors cherchez sa miséricorde. S'il est celui qui est al-basir, qui est qualifié du regard, c'est-à-dire qu'il voit toute sa création, alors craignez qu'il ne voit de vous ce qui ne convient pas. S'il est celui qui s'appelle al-sami', c'est-à-dire celui qui entend, alors craignez de le faire entendre ce qui lui déplaît, et ainsi de suite. Donc l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala se fait en fonction de ses noms et de ce que signifient ses noms. Un autre verset dit « Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama » Parmi ses serviteurs, c'est-à-dire parmi les serviteurs d'Allah, seuls les savants craignent Allah. C'est-à-dire que seuls les savants, ceux qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala en premier lieu par ses noms et ses qualités qu'il nous a révélées dans le Coran et par la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux-là sont seuls ceux qui craignent réellement Allah comme il se doit. Car ils connaissent ses noms et donc connaissent ses caractéristiques et ses qualités. Et celui qui acquiert cette connaissance par les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors forcément il va avoir ce qu'on appelle, ce qui est cité ici, al-khashya, c'est-à-dire la crainte d'Allah qui est basée sur la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous allons citer certains noms d'Allah subhanahu wa ta'ala avec l'explication en deux cours. Donc le premier nom, c'est le nom Allah, tout simplement, qui est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le plus répété dans le Coran et celui par lequel on désigne le plus Allah subhanahu wa ta'ala. C'est également celui par lequel on glorifie Allah, on le loue, on clame sa pureté, on clame son unicité. Donc on dit subhanallah, pureté à Allah, alhamdulillah, que la louange est à Allah, la ilaha illallah, il n'y a de divinité qu'Allah, c'est-à-dire il n'y a de chose qui doit être adorée qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Et toutes les autres formules de dhikr, c'est-à-dire par lesquelles on mentionne et on glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. C'est également le nom qui est la base de tous les autres noms. Tous les autres noms sont comme des descriptifs qui viennent décrire ce nom et qui viennent nous parler de ce nom. Et ce nom est la base. Et que signifie le mot Allah ? Allah veut dire à la base « El-Ilahu », c'est-à-dire « la divinité ». « El » qui veut dire « le » ou « la »,« Ilahu » c'est-à-dire « divinité ». Le mot « Ilah » vient du verbe « Alaha » qui est un synonyme de « Abada ». Donc le mot « Ilah » veut dire « ce qui s'adore », une divinité dans le sens « quelque chose auquel les gens vouent un culte », quelque chose que les gens adorent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui seul est « Al-Ilah ». Comme il nous a dit dans le Coran, « Wa ilahukum ilahun wahidun, la ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim ». Votre divinité est une divinité unique. Il n'y a de divinité que lui. C'est-à-dire la seule vraie divinité, c'est lui subhanahu wa ta'ala, « La ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim », le miséricordieux. Donc Allah c'est lui « Al-Ilah » et par la suite, les Arabes ont, entre guillemets, compressé ce nom pour dire « Allah ». Et ils ont enlevé le « Hamza », c'est-à-dire le « I » qu'on entend dans « Ilah ». Et ils ont dit « Allah ». Donc en fait, Allah veut dire « Al-Ilah », c'est-à-dire la divinité. Celui qu'on adore, celui qui mérite seul d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal a nommé dans le Coran ce que les gens adorent en dehors de lui, les a nommés Ilah, ou plutôt Aliha, le pluriel de Ilah. Quand il a dit subhanahu wa ta'ala, فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ أَلِهَتُهُمْ أَلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. Ceux qu'ils invoquent, leur divinité, Allah les a appelés divinité, qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne leur ont servi à rien. Donc Allah les a appelés Aliha, divinité au pluriel, alors que c'est lui le seul Ilah. Donc Allah les a appelés Aliha dans le sens où les gens les ont pris comme des Aliha, c'est-à-dire comme des objets d'adoration et de culte. Dans ce sens, ils sont des Aliha, puisque les gens les adorent. Et ce que les gens adorent, on appelle ça des divinités. Mais Allah Azza wa Jal nous dit également « Wa ilahukum ilahun wahidun » Votre divinité est une divinité unique. C'est-à-dire qu'entre toutes ces divinités, le seul qui est une réelle divinité, c'est-à-dire qui mérite seul d'être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est lui, al-ilahul haqq, la vraie divinité, c'est-à-dire le seul qui mérite d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. Également, le tafsir, c'est-à-dire l'explication du mot Allah, nous a été rapporté de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhumah, c'est-à-dire le cousin du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et qui faisait partie des savants d'entre les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et pour expliquer le nom Allah, il a dit Allah, dhul uluhiyati wal ubudiyati ala al-khalqi ajma'in. Il a désigné et expliqué le nom Allah par deux attributs. Al-uluhiyya, c'est-à-dire la divinité, et al-ubudiyya, c'est-à-dire l'adoration. Donc il a dit, Allah c'est celui qui détient, ou qui a, c'est-à-dire qui est qualifié de la divinité, al-uluhiyya, et de al-ubudiyya, c'est-à-dire de l'adoration. Que signifie cette phrase? C'est que le nom d'Allah, Allah, comprend le fait qu'Allah Azza wa Jal est le seul ilah, est le seul à être qualifié de al-uluhiyya, c'est-à-dire les qualités de la perfection. Donc c'est le seul créateur de l'univers, c'est le seul souverain de l'univers, et c'est le seul à être qualifié des qualités de la perfection, des qualités de la miséricorde de la façon la plus parfaite, des qualités dans ses actes qui consistent à créer, à faire vivre, à faire mourir, à donner à sa création ce dont ils ont besoin. Ça c'est l'uluhiyya. Et al-ubudiyya, c'est l'adoration, c'est-à-dire que toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des ibad, c'est-à-dire sont soumis à Allah azza wa jal, sont des serviteurs d'Allah azza wa jal, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. Toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, les êtres humains, que ce soit les musulmans parmi eux ou les non-musulmans, et toutes les créatures d'Allah, comme les sept cieux, comme les terres, les animaux, les montagnes, les mers, etc., tous sont des ibad, c'est-à-dire sont soumis à Allah Azza wa Jal, car ils sont soumis à son destin, et ils sont soumis à son ordre et à sa gérance, et personne ne peut sortir de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, ils sont ses ibad dans le sens où ils l'adorent. Et toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala clament la grandeur d'Allah azza wa jal et l'adorent, à l'exception d'une seule catégorie de personnes qui sont les mécréants, qui refusent d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de clamer sa grandeur, même si ils lui sont tout de même soumis sans le vouloir, dans le sens où ils sont soumis à son destin et à son ordre dont ils ne peuvent pas sortir. Mais les musulmans, comme le reste de la création, les musulmans ont fait le choix d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah azza wa jal leur a ordonné de l'adorer, ils ont accepté cet ordre et l'ont mis en pratique. Et en cela, ils rejoignent le reste de la création qui adore Allah subhanahu wa ta'ala de façon naturelle et qui clame la grandeur et la pureté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah azza wa jal est dhul uluhiyya, c'est-à-dire celui qui détient toutes les caractéristiques divines et toutes les qualités les plus complètes et les plus parfaites, et c'est aussi Zul Ubudiyya, c'est-à-dire lui seul qui mérite d'être adoré par les créatures et auxquelles les créatures sont soumises, sans même qu'elles ne le veuillent. Le nom d'Allah, le deuxième qu'on va expliquer, c'est Ar-Rabbu, Ar-Rabb, qu'ils traduisent généralement par le Seigneur, ou alors qu'on peut traduire aussi par le Souverain. Et le mot Ar-Rabb, le nom d'Allah Ar-Rabb, on le trouve dans le premier verset du Coran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange est à Allah, Rabbi Al-Alamin, c'est-à-dire le Seigneur des mondes, le Souverain des mondes. Donc le nom Ar-Rabb englobe plusieurs significations. Donc le nom Ar-Rabb désigne le fait qu'Allah Azza wa Jal est le Créateur de l'univers, que c'est lui le possesseur de l'univers, que c'est lui qui gère l'univers, que c'est lui qui donne at-tarbiya à l'univers, à toute la création. Qu'est-ce que veut dire at-tarbiya? C'est-à-dire que c'est lui qui les crée, c'est lui qui les fait progresser, c'est lui qui guide chaque créature à ce pourquoi elle a été créée et qui lui inspire tout ce dont elle a besoin pour progresser et pour vivre. Et c'est lui également qui leur donne ce dont ils ont besoin pour subsister. Donc c'est lui Ar-Rabb. Voilà le sens du mot Ar-Rab. C'est lui Ar-Rab qui gère la créature de sorte à ce que toutes les créatures soient soumises à son décret. Donc voilà le sens du nom Ar-Rab, le souverain ou le seigneur. Et donc à ce moment, il est important de mentionner que les mécréants de toute communauté, parmi les communautés qui ont reçu des prophètes et des messagers, reconnaissaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala est Ar-Rab. Et parmi eux, ceux qui ont mécru et qui ont combattu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parmi les Arabes de la tribu de Quraysh et autres, parmi les Arabes de la péninsule arabique, qui n'ont pas accepté de croire au message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui l'ont combattu. Et lorsqu'il leur a dit, قولوا لا إله إلا الله تفلحوا, dites لا إله إلا الله, dites qu'il n'y a de divinité qu'Allah, c'est-à-dire qu'il ne faut adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et vous réussirez, ils ont répondu, أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. A-t-il fait de toutes les divinités une seule divinité à adorer? Voilà là quelque chose d'incroyable. Eh bien, ceux-là même qui l'ont combattu et qui l'ont renié, reconnaissez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est Ar-Rab. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, dans le premier ordre adressé aux êtres humains dans le Coran, il nous a dit, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum, alladhi khalaqakum, walladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur, Rabbakum, c'est-à-dire votre Créateur, celui qui vous a créé, qui vous a donné, qui vous a fait progresser, qui vous a créé ainsi que ceux d'avant vous afin que vous acquériez la piété. Alladhi ja'ala lakum al-arda firashan was-samaa'a binaan wa anzala min as-samaa'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Celui qui a fait pour vous de la terre un lit, c'est-à-dire une surface étalée dans laquelle vous pouvez vivre. Celui qui a fait pour vous du ciel une construction et qui a fait descendre du ciel de l'eau par laquelle il a fait sortir des fruits comme subsistance pour vous. Ne donnez donc pas à Allah des égaux alors que vous savez. C'est-à-dire alors que vous les êtres humains, par votre nature, vous savez qu'Allah Azza wa Jal est lui seul qui vous a créé, et lui seul qui vous fait descendre la pluie, et lui seul qui vous a placé cette terre pour y vivre, et a créé au-dessus de vous le ciel, etc. Ne lui donnez pas des égaux dans l'adoration alors que vous savez. Et de nombreux versets donc nous montrent que les mécréants de Quraysh, de la tribu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, reconnaissaient qu'Allah est le seul créateur de l'univers et le seul à gérer cet univers, à descendre la pluie, à faire vivre, à faire mourir, etc. Mais ça ne les a pas fait entrer dans le monothéisme, car ils n'ont pas accepté qu'il est le seul à qui doit être vouée l'adoration, à qui doivent être vouées les prières, les prosternations, les sacrifices, la confiance, etc. etc. Donc ça c'est pour le nom Ar-Rab. Et le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rab implique justement pour celui qui le connaît qu'il adore Allah seul. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de l'adorer en disant « Adorez votre Rab, votre Seigneur, et ne lui donnez pas des égaux alors que vous savez, c'est-à-dire alors que vous savez qu'il est votre Seigneur », on en comprend justement que le fruit de connaître ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Ar-Rab, c'est, et la conclusion c'est, de l'adorer seul. Car celui qui est le seul créateur est le seul à avoir géré la création, est le seul forcément qui mérite d'être adoré et qui mérite d'être prié. Le nom suivant, c'est, ou plutôt les deux noms suivants, Ar-Rahman et Ar-Rahim, qui veulent dire tous les deux le miséricordieux. Donc Ar-Rahman, la différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim, Ar-Rahman désigne la qualité d'Allah qui est Ar-Rahma, la miséricorde. Donc lorsqu'on dit qu'Allah s'appelle Ar-Rahman, on en comprend qu'Allah Azza wa Jal a parmi ses qualités Ar-Rahma, la miséricorde. Donc Ar-Rahman désigne une qualité et Ar-Rahim désigne un acte, c'est-à-dire celui qui fait clémence et qui fait miséricorde à ses créatures. Voilà la nuance entre Ar-Rahman et Ar-Rahim. Ar-Rahman désigne le fait qu'Allah est qualifié de la miséricorde. Ar-Rahim désigne le fait qu'Allah fait miséricorde et fait clémence à ses créatures. C'est pour ça que le nom Ar-Rahim, on va le retrouver par exemple dans des versets comme « وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا » et Allah est Rahim envers les croyants. C'est-à-dire qu'il leur fait miséricorde. Donc il n'a pas dit « وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحْمَانًا » par exemple. Car il est plus convenable de dire « Rahim » car c'est Rahim, Ar-Rahim qui désigne l'acte de faire clémence et de faire miséricorde à ses créatures. À propos de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut citer ce hadith de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui dit que un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une femme parmi des prisonniers de guerre qui tournait entre les prisonniers, et dès qu'elle entendait un enfant pleurer, elle le prenait pour le coller contre elle, pour le consoler. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc s'est adressé à ses compagnons et leur a dit: est-ce que vous pouvez imaginer, est-ce que vous pensez que cette femme peut jeter cet enfant au feu? Et ils ont dit: la, la wallahi wa hiya taqdiru alla tafrahahu. Ils ont dit: non, par Allah, si elle peut ne pas le jeter, il n'est pas possible qu'elle le jette. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu qu'Allah azza wa jal est plus miséricordieux envers sa créature que cette mère envers, que cette femme envers ses enfants, pour montrer la grandeur de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. La miséricorde d'Allah qui est une miséricorde générale, qui englobe toute la création, les êtres humains comme les objets ou les animaux, et également parmi les êtres humains, ceux qui croient en Allah et qui l'adorent comme ceux qui le renient. Tout cela sont compris dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque chaque jour on le voit, Allah azza wa jal donne les moyens de subsistance et permet de subsister à toutes ses créatures, celles qui l'adorent comme celles qui le renient. Et ça fait partie de sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Et également Ar-Rahma, la miséricorde d'Allah, parmi cette miséricorde, il y a une miséricorde qui est plus spécifique, qui est sa miséricorde envers les croyants au jour du jugement, et dont ne profiteront pas les mécréants, ceux qui ont renié Allah ou qui lui ont associé quelque chose dans leur culte et leur adoration et leur croyance. Donc cette miséricorde est bien spécifique et ne touchera pas les mécréants, mais ne touchera que les croyants au jour du jugement, qui donc seuls mériteront de rentrer au paradis. Et même leur entrée au paradis ne sera que par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: لن يدخل الجنة أحدا منكم عمله. Nul d'entre vous ne se verra entrer le paradis par ses œuvres. C'est-à-dire, les œuvres de personne ne le font entrer au paradis. Et les gens ont dit: ولا أنت يا رسول الله. Même toi, ô messager d'Allah. Et il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. Même moi, sauf si Allah Azza wa Jal me fait miséricorde. C'est-à-dire que même les croyants qui entrent au paradis n'y entrent que par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc certes, Allah nous a informé que les croyants entraient au paradis par leurs actes, mais c'est par sa miséricorde qu'il a fait que les croyants entrent au paradis par leurs actes, et qu'il a fait que nos actes méprisables méritent tant de hasanat, c'est-à-dire tant de récompenses, et méritent l'entrée au paradis. Alors que s'il nous avait jugé avec équité et sans miséricorde, personne d'entre nous, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, pas même lui, personne ne pourrait entrer dans cette demeure qui est Darus Salam, qui est Darun Na'im et qui est le paradis, dans lequel il est ce que aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a jamais entendu et ce qu'aucun cœur n'a pu jamais imaginer. Aussi, la qualité d'Allah qui est Ar-Rahma, Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'on cherche à l'acquérir nous-mêmes, qu'on cherche à acquérir et à appliquer cette qualité qui est Ar-Rahma. Donc ça, c'est vrai dans plusieurs noms d'Allah, dans plusieurs noms d'Allah, on voit qu'Allah Azza wa Jal aime que l'être humain lui-même cherche cette qualité. Et parmi ces qualités, il y a Ar-Rahma. Et à ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ar-Rahimun yarhamuhum man fis sama. Ou plutôt Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Faites miséricorde et celui qui est au ciel vous fera miséricorde. Ceux qui sont miséricordieux, Allah aime, Allah les aime. Allah aime ceux qui sont miséricordieux. Donc c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime de la part de son serviteur qu'il soit clément et qu'il soit plein de pitié et de miséricorde envers sa créature, quelle qu'elle soit, de façon générale. Le nom suivant, c'est Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu qui veut dire le vivant, et Al-Qayyum qu'on ne peut pas traduire. On va l'expliquer, mais on ne peut pas le traduire. Donc Al-Hayy veut dire le vivant. Et Allah nous dit dans le Coran, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتْ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ. Remettant au vivant qui ne meurt pas, et clame sa pureté et sa louange. Et également un autre verset nous dit, هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّهُ فَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Donc que veut dire le nom d'Allah, le vivant? C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui est qualifié de la vie parfaite, d'une vie qui n'a pas de commencement ni de fin, d'une vie qui n'est pas entachée d'interruption, d'une vie qui n'est pas entachée de faiblesse, ni de sommeil, ni même de somnolence, ni de maladie. Donc en fait, ce nom qui est le nom d'Allah, Al-Hayy, le vivant, englobe toutes les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'ouïe, la vue, la parole, le fait, toutes ces qualités de splendeur, la beauté, etc., etc. Toutes les qualités qui reviennent à l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui désignent sa perfection et sa splendeur sont compris dans le nom d'Allah Al-Hayy. Car celui qui est qualifié d'une vie parfaite n'a cette vie parfaite que parce qu'il est qualifié des attributs et des qualités les plus parfaites. Donc Al-Hayy est un nom général. Il veut dire le vivant, mais justement parce qu'il est le vivant parfait, ça signifie qu'il est le parfait dans toutes ses qualités et qu'il détient toutes les caractéristiques de la splendeur et de la perfection. Et lorsqu'on médite sur ces versets, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتْ. Remettant, place ta confiance en le vivant qui ne meurt pas. C'est-à-dire que la connaissance de ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala a une trace dans les actes de l'être humain. Le fait de savoir qu'Allah est Al-Hayy, est celui qui ne meurt pas, et dont la vie n'est jamais entaché d'interruption ni de faiblesse, eh bien ça doit pousser l'être humain à se dégager des liens qu'il a avec la création pour renouer et renforcer son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est lui seul qui perdure, alors que tout le monde a un terme. Tout le monde est pris de faiblesse. Mais le seul en qui tu dois placer ta confiance, c'est le vivant qui ne dort jamais, qui n'est pas atteint de faiblesse, et qui ne mourra jamais, qui ne disparaîtra jamais. Et c'est pour cela aussi qu'il est celui qui mérite d'être adoré. C'est pour ça que l'autre verset dit, il est le vivant, il n'y a de divinité que lui, alors adorez-le en lui vouant exclusivement votre culte. Et Al-Qayyum désigne un attribut d'Allah qui est Al-Qayyumiyya, qui veut dire deux choses. Le fait qu'Allah Azzawajal subsiste par lui-même et le fait que les créatures d'Allah subsistent par lui. Voilà ce que veut dire Al-Qayyum. C'est-à-dire celui qui subsiste sans avoir besoin de personne, sans avoir besoin d'un moyen de subsistance, sans avoir besoin de l'aide ni de l'appui d'autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Et également, tout ce qui est autre que lui, c'est-à-dire toutes ses créatures, ne subsistent que par lui. Ne subsistent que parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les laisse vivre, les fait subsister et leur donne leurs moyens de subsistance. Voilà ce que veut dire Al-Hayyu Al-Qayyum. Donc Al-Hayy, comme on l'a dit, englobe toutes les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Al-Qayyum, puisque ça désigne le fait qu'Allah azza wa jal fait subsister toutes ses créatures, donc par ses actes, par la création, par al-rizq, c'est-à-dire le fait de leur donner leur subsistance et autres, eh bien en fait al-qayyum englobe tous les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hayy englobe toutes les qualités d'Allah et al-qayyum englobe tous les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc al-hayy al-qayyum ensemble englobe toutes les qualités d'Allah azza wa jalla, que ce soit ses caractéristiques ou également ses actes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait ce nom dans la difficulté. Il est rapporté donc dans le hadith que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait une difficulté ou un moment difficile, il disait Ya Hayyu Ya Qayyum Bi Rahmatika Astaghith. O Hayyu, O Qayyum, je te demande secours par ta miséricorde. C'est-à-dire par ta miséricorde, je te demande de me sortir de cette difficulté. Le nom suivant c'est, ou les deux noms suivants, Al-Ahad et Al-Wahid. Al-Ahad entre guillemets qui veut dire l'un, l'unique. Et Al-Wahid qui veut dire l'unique également. Donc ce sont deux noms qui sont semblables, qu'on retrouve par exemple dans la sourate Qul huwa Allahu Ahad. Et également le verset qu'on avait cité tout à l'heure, Wa ilahukum ilahun wahidun. Ou le verset également qui dit Qul illahu khaliqu kulli shay wa huwa al-wahid al-qahhar. Donc c'est un nom qui est répété, Al-Wahid c'est un nom qui est répété dans le Coran. Donc Allah Azza wa Jal est unique. Il est unique dans son être, c'est-à-dire qu'il n'a pas de semblable. Et il n'est pas un deuxième comme lui, subhanahu wa ta'ala. Allah est unique dans ses qualités, c'est-à-dire que personne n'est égal à Allah dans une seule de ses qualités. Personne n'est savant comme Allah est savant. Personne n'entend comme Allah entend. Personne ne voit comme Allah voit. Personne n'a de sagesse comme Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi de suite. Donc Allah est unique dans ses qualités. Et personne n'est l'égal d'Allah dans les qualités d'Allah. Et il n'a pas de semblable dans ses caractéristiques subhanahu wa ta'ala. Également Allah azza wa jalla est unique dans ses actes. Donc c'est le seul à créer, c'est le seul à faire vivre, à faire mourir et à gérer cet univers. Et justement parce qu'il est unique dans tout cela, donc dans ses caractéristiques, dans ses actes, eh bien il est unique dans son haqq. Son haqq, c'est-à-dire son droit, que le prophète a désigné sallallahu alayhi wa sallam en disant « Haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a ». Le droit d'Allah sur ses créatures, c'est qu'il l'adore et ne lui associe rien. Comme il est unique, il est le seul créateur et il est le seul à posséder ses attributs de perfection, il est unique dans nos prières, c'est-à-dire dans les actes de l'être humain. Il est le seul qui est visé et qui est recherché par les actes de l'être humain, c'est-à-dire par nos prières, par nos sacrifices, par notre jeûne et par toutes nos adorations. Le nom suivant c'est As-Samad. As-Samad, qu'on peut pas traduire non plus, en tout cas je vais pas m'y aventurer, qu'on va simplement expliquer. Donc As-Samad, c'est celui qui est complet dans toutes ses qualités, comme ceci a été rapporté de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma. C'est-à-dire dans sa générosité, il a la perfection. Dans sa science, il a la perfection. Dans sa beauté, il a la perfection. Dans sa grandeur, il a la perfection. Dans sa hauteur, il a la perfection. Et dans toutes ses qualités, subhanahu wa ta'ala, il a la perfection. Voilà ce que veut dire d'une part As-Samad, As-Sayyid, c'est-à-dire le Seigneur. Et d'autre part, As-Samad veut dire celui qui est visé et vers qui se tournent toutes les créatures pour leurs besoins et pour subsister. Donc le nom As-Samad dans la langue arabe en fait vient de deux sens. Al-Jam'u qui veut dire le fait de réunir et Al-Qasdu qui veut dire le fait de viser. Et comme il a été expliqué par certains savants, les Arabes désignaient le Seigneur parmi eux, donc le Seigneur ici dans le sens humain, c'est-à-dire un maître, un chef, etc. Ils l'appelaient Samad. Pourquoi ils l'appelaient Samad ? Parce qu'il réunit toutes les qualités d'un chef, donc là c'est le sens de réunir, et parce que tout le monde se tourne vers lui pour leurs besoins, leurs demandes, etc. Donc voilà le sens, par là on comprend le sens du mot As-Samad, celui qui réunit toutes les qualités et la perfection dans toutes les qualités, et celui vers qui se tournent les créatures pour subsister alors que lui n'a pas besoin d'elle. Et également il a été rapporté dans le sens du nom As-Samad, celui dont rien ne sort. C'est-à-dire il n'existe pas un être qui est sorti d'Allah, hasha, subhanahu wa ta'ala. Dans le sens en fait où il n'enfante pas, azza wa jal, contrairement à ce qu'inventent les chrétiens sur Allah en disant qu'il est, que Isa est son fils, alayhi salatu wassalam. Alors que le nom d'Allah, As-Samad, on en comprend qu'Allah ne peut pas enfanter. Ça fait partie de sa perfection. Qu'il n'enfante pas et n'a pas d'enfant, subhanahu wa ta'ala. Et également, il est venu dans l'explication du nom As-Samad, celui qui ne mange pas et qui ne boit pas, puisqu'il n'a besoin de rien dans sa création, subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsqu'on lit l'explication de ces noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, parfois ça peut paraître un peu évident. On peut se dire, mais ça c'est des choses qu'on connaît. Certes, ce sont des choses qu'on connaît, mais souvent on ne se rend pas compte à quel point ces choses font la différence entre nous et les autres religions, même parmi ceux qui se prétendent monothéistes. Car déjà, dans ce qu'on vient d'entendre seulement, eh bien, les musulmans se différencient dans leur connaissance d'Allah et leur croyance en Allah se différencie des juifs et des chrétiens. Et se différencie de beaucoup de mouvements et de fausses croyances qui mettent des égaux à Allah dans beaucoup de choses qu'on vient de citer. Comme lorsqu'ils te disent par exemple que Allah Azza wa Jal a pris la forme d'un être humain pour venir sur terre et se rapprocher de ses créatures, et il a mangé et il a bu pour voir ce que les êtres humains connaissent et vivent, etc. Subhanallah. Comment dire ça sur Allah Azza wa Jal si ce n'est par un manque de connaissance de ses noms et de ses attributs? Et le fait de concevoir Allah comme on conçoit un être humain. Donc c'est l'ignorance d'Allah et de ses noms qui amène à dire ce genre de paroles. Ou alors le fait de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un fils ou a des enfants. Ça c'est ignorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ignorer sa perfection. Ou le fait de dire, comme l'un d'entre eux m'a dit, la relation avec Allah, ça doit pas être une relation de culte, où on l'adore, on lui obéit. Ça doit être comme un ami. Je lui parle comme ça, etc. Ça, c'est un manque de vénération. Il ne conçoit pas à quel point Allah subhanahu wa ta'ala est grand. Il l'a réduit à la place d'un être humain, dont il fait son ami. Et un ami, on peut lui obéir, on peut lui désobéir. On peut être son ami aujourd'hui et le lâcher demain. Comment parler d'Allah subhanahu wa ta'ala comme un simple ami, alors que c'est celui à qui on doit, à qui se soumet toute la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on se contentera de ça pour aujourd'hui. Et je vous revois à 2h30, inshallah. Barakallahu fikum, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.